Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Galère au 88.4 et vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 14 février et comme tous les mercredis, nous sommes en direct de 19h à 20h. Cette émission sera en rediffusion demain, jeudi 15 février à 9h, et vous pourrez nous réécouter sur le site de Radio Galère dès demain, rubrique Écoforum, et très bientôt sur Spotify et Deezer. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, où vous nous écoutez, dans votre voiture, chez vous, en replay, probablement que, comme nous, vous vous posez des questions sur l'état du monde et que ça vous préoccupe. Vous observez les effets du dérèglement climatique, les tensions sociales, les aberrations de notre époque comme un projet de puits de pétrole à Bordeaux. Et puis il y a les tracas du quotidien, le travail, l'inflation, le temps qu'on peut accorder à nos proches et à nos passions. Alors comment concilier tout cela? Que faire quand tout nous dépasse? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Ce sont les questions auxquelles nous tentons de répondre chaque mercredi sur les ondes de Radio Galère. La Forêt des Possibles donne la parole aux acteurs et aux actrices qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Eux aussi se sont posés plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre. Ils et elles se sont engagés. Ils et elles ont créé leur projet. Ils et elles répondent à des problématiques du territoire. Surtout, leurs projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une forêt, une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. Semaine après semaine, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Mailloux, accompagnée ce soir de Marin Moffret en régie.
Bonsoir.
Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'équipe des Petites Cantines à Marseille avec Julia, Gwen et Diane en public.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir les filles, enchantée ravie de vous recevoir ce soir. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 février et qu'on a l'habitude de fêter la Saint-Valentin à cette date. Ça va être la cohue dans les restaurants qui vont tous afficher complet puisque les couples vont se précipiter pour y manger des bons plats et partager des dîners romantiques. Mais ce soir, on va vous inviter à un autre genre de table, la table des petites cantines, qui est donc une cantine de quartier, une cantine solidaire, qui a vu le jour à Lyon et qui a depuis essaimé partout sur le territoire, et qui va bientôt voir le jour à Marseille. C'est ce dont on va parler ce soir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, vous et votre parcours ? Gwen, tu y vas ?
Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Gwen. J'ai un profil plutôt de développeuse de projets, gestion de projets. J'ai fait 5 ans dans le monde du conseil en transformation digitale pour le secteur public. Et puis, j'ai fait une reconversion pour travailler dans l'économie sociale et solidaire à Paris. J'ai ensuite déménagé à Marseille étant originaire du Sud, dans laquelle je me suis investie du coup dans le milieu associatif marseillais. Et ayant une pause professionnelle, on va dire, ces derniers mois, j'ai décidé de m'investir sur un projet à long terme et j'ai rencontré du coup Julia à l'automne qui voulait monter le projet des Petites Cantines Marseille et j'ai décidé de m'investir du coup sur le long terme dans ce projet-là.
Ok, vous nous raconterez ensuite quel a été l'élément déclencheur pour cette rencontre. Julia.
Bonsoir, moi du coup c'est Julia. Moi je suis à Marseille depuis 4 ans, originaire d'Aix-en-Provence. Et du coup, j'ai travaillé pendant quelques années dans le domaine de la lutte contre la précarité alimentaire. Et c'est par cet ancien job que j'ai rencontré le projet des Petites Cantines, qui m'a beaucoup plu en tant que... Dans le cadre de mon travail, mais également en tant que citoyenne. Et je me suis dit, ah tiens, ça n'existe pas à Marseille, ça.
Ok, et donc quand tu travaillais dans le secteur de l'aide alimentaire, tu travaillais au sein d'associations déjà ?
Oui, ouais, j'étais de l'autre côté, j'accompagnais des projets à voir le jour. D'accord. Et il y avait aussi ce côté personnel qui m'intéressait, de me dire peut-être qu'un jour, moi aussi, j'ouvrirai... Enfin, je serai de l'autre côté et j'essaierai, avec un collectif, de porter un projet citoyen.
Ok, donc on voit qu'il y a quand même une grande sensibilité à cette question d'alimentation te concernant, Julia. Toi, de ton côté, Gwen, ça va être le côté développer des projets dans l'ESS avec une sensibilité pour l'alimentation, pas particulièrement ?
Oui, j'aime bien tout ce qui est autour de l'alimentation durable, entre autres.
T'aimes manger ?
J'aime manger, tout à fait.
Et est-ce que vous voulez rapidement présenter les autres personnes qui sont le noyau de ce projet ?
Oui, carrément. En fait, oui, on n'est pas deux, on est quatre porteurs de projets. Mm-hmm. Donc, il y a Diane qui nous écoute attentivement juste à côté de nous. Et il y a aussi Florian qui travaille en ce moment. Donc, il n'a pas pu être avec nous.
D'accord.
Et puis, autour de ça, il y a aussi toute une équipe de bénévoles. Une équipe avec une implication différente selon les personnes. Mais il y a aussi toute cette aide et cette énergie qui nous est vraiment très utile.
Ok. Donc, il y a déjà plein de personnes qui sont engagées sur ce beau projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est faite la rencontre ? Et en fait, je pose la question tout en sachant la réponse parce que j'ai vu passer aussi cet élément de rencontre. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette belle histoire ?
Ouais, carrément. Il y a quelques mois, j'ai arrêté de travailler, puis j'avais ce projet qui me trottait dans la tête parce que du coup j'avais rencontré les petites cantines quelques mois plus tôt. Et donc je me suis rapprochée du réseau Les Petites Cantines pour leur demander s'il y avait une équipe sur Marseille qui existait, et un bout de développement de projet, enfin quelque chose qui se faisait sur le territoire. C'était pas le cas, et donc en accord avec Les Petites Cantines, j'ai commencé à essayer d'impulser le projet, donc en envoyant des messages à droite à gauche, en faisant marcher mon réseau, mais surtout en faisant une communication sur les réseaux au nom du réseau des petites cantines. Et en appelant, à trouver des co-porteurs de projets, des bénévoles, des personnes qui s'intéressaient.
Et c'est notamment un post LinkedIn qui t'est arrivé, Gwen, c'est ça ?
Tout à fait. Ouais. J'ai vu du coup un post sur LinkedIn qui parlait des petites cantines et de Julia, qui était à la recherche du coup de porteurs de projets comme elle. Donc on s'est contactés, elle et les autres porteurs de projets et autres bénévoles, on s'est rencontrés et on a monté du coup ce projet ensemble.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur Marseille, ou en tout cas dans cet écosystème de l'ESS, qui a vu passer ce post LinkedIn.
Ça marche.
Ça marche, c'est ça. Moralité, utilisez les réseaux sociaux pour faire parler de vos projets. Et donc, Les Petites Marseille, c'est depuis peu une association. Félicitations d'avoir déposé les statuts.
Merci à Gwen.
Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que c'est concrètement ? Quel est le concept des petites cantines ? Comment ça fonctionne ? Quelle est son organisation ? On est curieux. On veut tout savoir.
Donc les petites cantines, de manière générale, ce sont des cantines solidaires qui permettent de créer du lien social entre les personnes, qui invitent du coup qui veut à venir cuisiner et à venir manger. Donc le but, c'est de pouvoir avoir des espaces avec des grandes tables où les gens se mélangent et d'être localisés du coup dans des lieux où il y a une diversité de personnes avec un pouvoir d'achat différent, des paniers moyens différents. Donc c'est participatif, comme je le disais, puisque les personnes cuisinent et mangent ensemble. C'est à prix libre, ça c'est important de le souligner. Du coup, chacun met à la hauteur de ses moyens. Et le but, c'est vraiment d'en faire un environnement convivial pour recréer la confiance en soi, pour les personnes, et puis recréer de la confiance aussi pour les autres et pour l'avenir.
Ok. Et donc, quand tu dis que c'est participatif, c'est-à-dire que le matin, il y a certaines personnes qui vont manger, qui viennent en avance justement pour éplucher les carottes et couper les oignons et pour cuisiner des grandes quantités. Après, il va y avoir une équipe qui va se charger de la vaisselle. Il va aussi y avoir peut-être des tâches telles le nettoyage, enlever les miettes sur la table. Ça aussi, ça fait partie du projet. C'est porté par les bénévoles, du coup.
Oui, alors du coup, on a les bénévoles qui sont des personnes qui s'investissent activement. On peut aussi parler d'adhérents, tout simplement. Mmh. C'est les personnes, les habitants du quartier qui peuvent adhérer du coup à la petite cantine Marseille et venir quand ils le souhaitent. Il faut s'inscrire pour qu'on puisse juste prévoir les quantités nécessaires pour les déjeuners.
Ok, et pour adhérer, comment ça se passe ?
C'est simple, il suffit juste de toquer à la porte et puis... voilà, et de remplir un petit bout de papier.
D'accord, donc c'est sans condition.
Sans condition,
il y a un montant minimum ou...
C'est à prix libre.
Ouais. C'est à prix libre aussi, tout est à prix libre chez les petites cantines.
Exactement, c'est vraiment l'idée de tester ce principe aussi à long terme, de voir ce que ça donne, une société basée sur le prix libre. Et il faut savoir aussi qu'en adhérant à une petite cantine, on adhère à tout le réseau des petites cantines, parce qu'on n'est pas tout seul et qu'on est accompagné par un réseau qui s'appelle les Petites Cantines Réseau, qui est une association, l'association mère, on pourrait dire, qui nous accompagne dans le développement de notre projet. Et aujourd'hui, ils ont réussi à accompagner 13 projets en France.
Donc il y a 13 petites cantines sur le territoire français.
Qui marchent, et il y en a 13 en création.
Ok, donc ils vont doubler d'ici les prochains mois.
Plutôt année.
Plutôt année. Ok,
ouais. Pragmatique.
C'est un projet qui prend du temps à être lancé. Ouais. J'imagine entre recruter les forces vives, trouver le local, trouver aussi les partenaires d'approvisionnement et les partenaires financiers. Exactement. Est-ce que vous voulez nous parler rapidement? Enfin, rapidement ou non, comment vous fonctionnez en termes d'approvisionnement, comment, par quel circuit vous allez vous procurer la matière première qu'on dégustera.
Alors, l'idée aussi des petites cantines, c'est de travailler sur... on travaille sur une cuisine familiale avant tout, une cuisine que tout le monde peut faire, mais on essaye aussi d'impulser peut-être des déclics de coutumes ou de manières de faire à la maison pour que ce soit réplicable chacun chez soi. Donc voilà, on parle de produits bruts, on parle de produits simples, on essaye peut-être de faire découvrir des choses, mais l'important dans les petites cantines, c'est essayer de favoriser l'alimentation durable. Donc en créant des partenariats avec des producteurs locaux ou des plateformes, parce qu'il y a aussi pas mal de collectifs qui s'organisent pour l'approvisionnement durable, en fait, à Marseille et dans d'autres villes. Hein. Et pourquoi pas du bio ? En tout cas, on va essayer de souligner un peu ces traits-là. Ça ne va pas être 100% de nos approvisionnements, mais ça va être un des objectifs. Et on va aussi s'adosser au réseau de lutte anti-gaspillage qui existe aussi dans chacune des grandes villes de France, hein, et pour y récupérer des invendus, en fait, et les utiliser et les valoriser dans le cadre du restaurant.
Ok, ouais, j'imagine que ton passé, en ayant travaillé sur l'aide alimentaire, tu dois avoir une bonne connaissance de ces circuits, de comment récupérer les invendus pour limiter le gaspillage. Et puis après, sur Marseille, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les sujets du bio, je pense notamment au panier marseillais, ce genre d'acteurs. Donc c'est très intéressant de voir ce projet qui est en train de se monter. Et justement, là tout à l'heure, on parlait du fait que c'était donc à prix libre et que vous recherchez notamment des ressources financières. Est-ce qu'on peut aller un peu dans le détail de comment ça fonctionne financièrement un tel projet ? Il me semble que l'idée, c'est que ce soit un projet en autofinancement, tu me disais ?
À terme.
À terme, pas dans l'immédiat. Est-ce que Gwen, tu veux nous expliquer cette partie ? Ou je ne sais pas s'il y a une personne dans votre équipe qui est plus à l'aise avec ces notions-là.
Je pense qu'on a tous un peu une vision... clair quand même de l'aspect financier. Mmh. En gros, il y a deux phases. Il faut différencier la phase de montage et la phase de fonctionnement. Le but à terme en fonctionnement, c'est effectivement d'être en autofinancement. Donc on sait qu'en moyenne, d'après les retours du réseau, on arrive à financer 80% du fonctionnement de la petite cantine avec les adhésions et avec les repas. Donc il nous reste 20% à peu près à combler. Pour ça, on verra ce qu'on pourra faire, mais soit effectivement, il faut aller chercher des subventions auprès d'instituts, soit on peut aussi penser à plein d'autres activités en parallèle qui nous permettraient du coup de gagner de l'argent, telles que la vente de produits créés au sein de la cantine, la réalisation d'ateliers, la location du lieu pour des événements privés, par exemple.
D'accord. Et donc, en parlant d'événements privés ou d'événements tout court, il me semble que d'ici là, à trouver votre local, vous travaillez justement à un peu des événements pour pouvoir commencer à faire vivre le concept des petites cantines, mais plutôt sur du ponctuel.
Complètement. Et on appelle ça des cantines éphémères.
Ok.
Et l'idée cette année, parce qu'effectivement, du coup, il faut bien préciser qu'on n'a pas de local encore et qu'on est en train de démarrer la recherche de fonds pour investir dans ce local. Du coup, l'idée, c'est de faire des événements hors les murs, donc d'aller avec des partenaires associatifs ou juste du tissu local marseillais, en fait, finalement, organiser des cantines et s'organiser avec peut-être les moyens du bord ce jour-là, mais essayer de reproduire ce qu'on fera en petite cantine après.
Ok. Est-ce qu'il y aurait un événement où on peut tester le concept prochainement ?
Pas encore de date calée.
Alors ceci est un appel à la communauté de la forêt des possibles. Si vous souhaitez, si vous souhaitez une solution de restauration lors de vos événements, pensez aux petites cantines. Sinon, j'avais aussi envie de parler du fonctionnement de l'association qui est nationale. Vous êtes une association locale. J'imagine que chaque structure, chaque cantine est elle-même une association. Comment fonctionne ce réseau de franchise, si j'ose l'appellation? Comment l'association nationale vous accompagne dans le projet?
Oui, alors le réseau Les Petites Cantines, c'est à peu près 8 salariés qui œuvrent pour l'accompagnement au développement des projets et aussi en utilisant l'intelligence collective au développement et à la suite du projet, enfin la suite, je veux dire le développement ou l'évolution du projet, c'est ça le mot que je cherchais. Donc ils nous accompagnent, nous, au quotidien dans le montage de notre projet sur toutes les thématiques financières, locales, mobilisation de communautés, et j'en passe. Mm-hmm. Et vraiment, c'est une association autonome, donc nous, on adhère en fait finalement à ce réseau. Et dans les faits, ce que ça veut dire que on participe aussi à cette évolution du concept, à aux réflexions autour du concept des petites cantines. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, à ce niveau-là, c'est qu'on est tous en fait des mini-laboratoires dans nos villes, mm-hmm. et qu'on peut aussi aller un peu plus loin sur ce concept du prix libre, ce concept de renouer de la confiance de proximité, etc. Donc moi, je trouve ça chouette de pouvoir voir ça dans plein de villes différentes en France. Ouais.
Est-ce que justement le fait qu'il y ait les petites cantines dans 13 villes actuellement, enfin en tout cas dans 13 locations différentes, est-ce qu'on peut observer des spécificités du territoire? Par exemple, le fait qu'à Marseille soit une ville déjà où il y a déjà beaucoup d'associations, notamment sur les sujets sociaux. Est-ce que vous avez des spécificités territoire par le prisme des petites cantines?
Et en fait, dans les petites cantines, il y en a qui sont en ville, il y en a qui sont à la campagne, il y en a qui sont hébergées dans des tiers-lieux. Il y en a même une qui est hébergée dans un hôtel à Lyon. Donc chacune, en fait, a ses spécificités. Nous, sur Marseille, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut rentrer en coopération avec le tissu associatif déjà assez riche, mm-hmm. Et les autres types de cantines solidaires qui existent déjà sur le territoire pour venir compléter un peu ce maillage. Je pense que c'est notre enjeu. Et par contre, ça me paraît... assez pertinent d'implanter ce projet ici à Marseille en termes de besoins aussi, des chiffres de précarité alimentaire, etc. Il y a de forts besoins sur Marseille, donc on a complètement du boulot là-dessus.
Oui, j'en doute pas que ça trouvera son public sur Marseille. En tout cas, les sujets d'alimentation et de lien social, je pense que ça résonne chez beaucoup de personnes. Et aussi, juste pour continuer là, sur le sujet de l'association nationale, vous m'aviez mentionné cette charte de valeurs, donc qui est un peu un cadre pour développer le projet. Est-ce que vous pourriez nous citer un petit peu dans les grandes lignes quelles sont ces valeurs qui sont véhiculées au sein du projet?
Les valeurs qu'on a dit un peu avant, c'est le prix libre, c'est la convivialité, c'est le côté participatif pour être vraiment comme à la maison quand on vient dans une petite cantine. Et puis après, c'est les valeurs aussi qui sont propres à toutes les associations de non-lucrativité, mmh. Notamment.
Oui, voilà, je pense que c'est ça. Après, il faut savoir aussi que les petites cantines, elles ont... elles accompagnent à développer le même projet, les petites cantines, mmh. Dans une localité particulière. Mais elles accompagnent aussi tout type de porteurs de projets qui ont un projet de restauration solidaire. Donc d'accord. Nous, on a décidé, parce que les valeurs nous parlent et que le projet nous parlait, de vraiment aller prendre le projet comme il était, le dupliquer en quelque sorte et l'adapter au contexte marseillais. Mais ils accompagnent également d'autres acteurs.
D'accord, qui sont sur les sujets pareils de restauration, d'alimentation durable et de lien social.
Oui, c'est ça, mais qui ne veulent pas forcément rentrer dans exactement les mêmes cases qu'on vient de vous évoquer.
D'accord. Voilà. Ok, et justement, si on aborde la question des établissements similaires qu'on peut trouver sur Marseille, il y a notamment la cantine du Midi qui est à deux pas de la friche de Belle à deux pas de la friche où on se trouve. Il y a aussi le plan A à Z, il y a aussi la Casa Consola. Est-ce que vous pourriez me citer un petit peu les points communs et les différences entre ces structures?
Alors, ce sont toutes des cantines solidaires dans le fait qu'elles ont envie de faciliter l'accès à l'alimentation aux personnes. Après, chacune a un petit peu ses spécificités. La cantine du midi, par exemple, elle permet à des personnes qui ont envie d'apprendre à cuisiner de venir en formation. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être des bénévoles, mais ça peut être aussi des personnes qui ont envie de se former sur la cuisine. Il y a des cantines, typiquement pardon, dans la cantine du midi, c'est pas un prix libre, c'est un prix accessible. Mmh. Qui est entre 8 et 10 euros. Les menus ont vocation à être équilibrés, à être de saison, utiliser l'agriculture locale, etc. Je ne connais pas exactement tous les profils de chaque cantine, mais il y a des cantines qui sont tournées autour de l'insertion des personnes, donc qui aident des personnes à se réinsérer dans leur métier de cuisinier. Mmh. Il y a d'autres concepts encore qui existent.
Oui, mmh. Complet. Puis en fait, chacune a ses spécificités, mais chacune se retrouve autour du même projet de, voilà, comme tu disais, de rendre accessible la nourriture à tous et de travailler sur des bons produits aussi, il me semble.
Mm. Ouais. Ok, tous les sujets d'alimentation durable, de lien social, de convivialité partagés autour d'un bon repas. Ben, je vous propose qu'on creuse toutes ces questions dans la seconde partie. On va prendre une petite pause musicale. Est-ce que vous voulez nous expliquer la chanson que vous avez choisie? Je vous vois toutes les deux rigoler. Vous avez l'air d'être fières de votre choix. J'avoue que c'est bien trouvé.
Oh, ça nous a pris du temps.
On a choisi une chanson qui s'appelle The Onion Song de Marvin Gaye et Tammy Tennell, qui compare le monde comme un très gros oignon qui compare la douleur et la peine à des épices qui feraient pleurer. Et que du coup, le seul moyen de s'en débarrasser, ce serait de planter des graines d'amour. Donc on aimait bien l'idée de mélanger cet aspect très entraide, amour, avec le côté cuisine et le côté alimentation. Sachant que dans la chanson, il mentionne aussi le fait qu'on s'en fout de l'apparence, qu'on s'en fout du statut, qu'on est tous finalement un peu frères et sœurs. Voilà.
Formidable, mais c'est un hymne des petites cantines que vous avez trouvées. Eh bien, c'est parti, bonne écoute. A great big onion, and hate and fear are the spices that make you cry. Oh, baby, and the only way to get free of this great big onion is to plant love seeds until it dies. Woo! Hey, world, we gotta.
great big onion.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 et nous sommes toujours l'émission La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Et ce soir, nous recevons l'équipe des Petites Cantines en compagnie de Julia et Gwen. Alors en première partie, vous nous avez expliqué le projet marseillais que vous êtes en train de monter, donc cette cantine solidaire qui verra le jour, où le concept c'est non pas seulement de venir se restaurer, mais de prendre part à la vie de l'établissement, donc arriver le matin, cuisiner, partager ce moment tous ensemble autour d'une grande table, faire la vaisselle, faire l'entretien de l'espace, et tout ça en étant adhérente de l'association Les Petites Cantines. Et juste avant la pause, on était en train de parler des différences entre les petites cantines, mais aussi la cantine du midi, qui est plutôt sur les sujets d'insertion. Le plan A à Z, qui est sur la Canebière, qui va plutôt être sur les sujets de gaspillage alimentaire. Et là, nous, avec les petites cantines, on est vraiment sur l'enjeu de lien social. Comment recréer du lien pour les personnes qui sont isolées, qui souffrent de solitude. On pense notamment aux personnes âgées, aux personnes en situation de précarité, aux personnes qui viennent d'arriver sur Marseille, qu'ils soient en situation de précarité ou non d'ailleurs. Moi, ce que je voulais vous demander, c'était... vous avez vraiment cette volonté d'avoir la convivialité, la chaleur, d'être comme à la maison. Quels sont les ingrédients qui font qu'on arrive à créer cette atmosphère conviviale comme à la maison ?
Ben, au sein d'une petite cantine, les personnes qui organisent, qui coordonnent, qui animent, c'est des personnes qui ont déjà été... formés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a il y a de l'accompagnement du réseau, de la part de l'équipe qui fonde le projet, pour transmettre les valeurs. Et transmettre les valeurs, c'est aussi transmettre les petits gestes du quotidien qui permettront aux gens de se mettre d'être à l'aise, donc de ritualiser un accueil, de permettre à chacun de connaître le prénom de chacun, de permettre à chacun d'avoir un rôle pendant la matinée, mais de pouvoir changer. Je parle de matinée si on fait à manger pour le midi. D'avoir quelqu'un qui met l'ambiance en mettant de la musique, enfin voilà, de créer des petits rôles, des petits rituels qui permettent que la rencontre se fait, les liens se font, les discussions arrivent, qu'on le veuille ou non, les personnes nous discutent avec nous. Et moi, des expériences que j'ai eues dans d'autres petites cantines, dans d'autres villes, parce que j'ai participé à quelques temps de cuisine dans d'autres petites cantines pour voir un petit peu ce que c'était, il y avait des services civiques qui étaient, que moi j'ai trouvé géniaux parce que c'est des jeunes et ils brisent la glace super facilement et ils vont vers tout le monde et ils permettent à tout le monde de créer du lien. Et en fait, il y avait du coup, bon, eux ils étaient en service civique, mais il y avait aussi d'autres jeunes qui étaient là, qui parlaient avec une petite mamie qui était un peu toute seule, mais qui avait vraiment très envie de discuter aussi, deux travailleurs qui passaient, qui avaient des réunions, enfin, vraiment un public très, très large, très différent et des éléments pour créer du lien entre tout ça.
Ouais. Est-ce que le fait que ce soit des nouvelles têtes tous les jours permet de créer du lien, puisque c'est ça. Si tous les jours on rencontre de nouvelles personnes, on partage un repas avec de nouvelles personnes, c'est très enrichissant, très stimulant. Mais est-ce que on n'a pas un peu ce côté on se perd dans l'anonymat, ou bien au contraire on observe que quand on vient aux petites cantines, on n'habite pas très loin, on a adoré l'expérience et on a envie de revenir. Et est-ce qu'il y a une certaine régularité chez les adhérentes?
Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je vous invite tous à lire la mesure d'impact social qu'a réalisé le réseau auprès des cantines existantes. Effectivement, il y a une bonne partie des convives qui sont des habitués, en fait. Alors, on parle pas forcément d'habitués tous les jours, mais il y a des gens qui viennent au moins une fois par semaine déjeuner et faire à manger aux petites cantines. Et donc, en fait, on recroise un petit peu les mêmes têtes. Ou alors, il y a des pionniers ou il y a des petits piliers qui sont là assez souvent. Mais il y a aussi des gens qui sont de passage, il y a aussi des gens qui viennent une fois par mois. Il faudrait regarder les chiffres, mais c'est assez conséquent les personnes qui reviennent.
Puis on a des bénévoles investis, on a le maître ou la maîtresse de maison, les services civiques qui sont pour le coup là régulièrement sur place, voire tout le temps sur place. Donc on les croise pour le coup à chaque fois qu'on vient.
Ouais. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas mentionné depuis le début, mais lorsque la structure sera ouverte, même si ce sont des bénévoles qui vont l'aider à tourner, il y aura forcément un ou deux salariés pour coordonner le tout, parce que c'est quand même une grosse machine, hein, faut pas se le cacher, mmh. et ça a besoin d'être structuré quand même. Donc ça va être aussi une structure qui va créer de l'emploi.
D'accord, donc il y aura un maître ou maîtresse de maison.
Ou deux.
Ou deux, ouais, avec, dépendant de la taille du local que vous trouverez, avec plusieurs services civiques, a priori,
peut-être,
un ou plusieurs, ouais. On verra. Et j'imagine que ces personnes font un peu figure de référence et peuvent être les personnes qui tissent des liens, qui apprennent à les connaître les uns les autres, qui font les connexions, vous partagez tel point commun, vous venez de la même ville. J'imagine que ces personnes ont un rôle clé dans la vie du lieu.
Tout à fait. Après, je pense que l'essentiel, c'est surtout de mettre en place toutes les conditions pour que les gens se rencontrent de manière autonome. Mmh. Parce que ce serait lourd, sinon, d'imaginer une personne qui serait catalyseur de tous ces liens, de toutes ces personnes, devoir se rappeler de tous les prénoms, etc. C'est beaucoup. L'idée, c'est vraiment juste de mettre en place toutes les bonnes zones pour que ça se passe bien et que les gens aillent vers les autres.
Ouais. Et j'imagine que c'est quelque chose qui se fait aussi... Enfin, il faut être moteur pour trouver ces mécaniques qui vont amener à créer du lien, à faire qu'on se sent accueilli. Mais par exemple, je ne sais pas, j'imagine avoir son petit nom sur une étiquette ou que sais-je, ou bien d'avoir une playlist qui soit collaborative. Enfin, j'imagine que des choses seront mises en place au fur et à mesure pour briser la glace entre les personnes qui viendront se restaurer.
Oui, oui, complètement.
Vous avez déjà imaginé des petits icebreakers?
On n'a pas vraiment pensé à ça encore. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... Je me suis perdue. C'est ce que je voulais dire. On n'a pas encore conçu tous ces éléments-là, mais... Bon, j'ai perdu ma phrase.
C'est OK. Je crois que Marin avait une question en plus.
Ouais, moi, ça me fait un petit peu penser au social bar qui existe à Paris sur le fait d'avoir un icebreaker pour qu'il puisse y avoir des personnes qui se rencontrent. Et ici, dans cette émission, dans la forêt des possibles, on aime mettre en lien ce qui se fait. Il y a un certain nombre de structures qu'on a reçues qui ont cette vocation de pouvoir vraiment créer du lien entre des personnes qui peuvent être un petit peu isolées. Il y a notamment Accueil et Partage, qui se fait Accueil et Rencontre, pardon, qui à Calisté, où c'était justement des grands repas qui se font au niveau du Resto du Cœur qui existe à Calisté. Il y a les Tables de Cana, qui visent aussi à aller chercher des personnes qui sont dans des situations parfois de précarité, loin de l'emploi, et de les former au métier de la cuisine. Mais un point qu'on aborde assez souvent sur ces ondes, c'est le fait un peu de sortir d'un certain entre-soi militant. Et d'aller chercher d'autres publics que ceux qu'on a l'habitude de fréquenter au quotidien, qui est vraiment une question très difficile, surtout à Marseille, où on constate semaine après semaine la difficulté que c'est de pouvoir vraiment créer ce brassage. Et donc je voulais avoir un peu votre regard dessus. La semaine dernière, on en parlait avec le Talus, qui disait qu'il faisait aussi comme ça cet espace commun autour de la cuisine et de l'alimentation, pas très loin du quartier d'Herbel. Et avec tous les liens qui pouvaient exister avec Herbel, il y avait quand même parfois des confrontations de culture. Je voulais avoir votre regard sur cette question cruciale, surtout dans la mosaïque qu'est la ville de Marseille.
Ah oui, tu as raison de le mentionner. C'est vrai que c'est jamais simple de créer la rencontre, en fait. Mais nous, on pense et on croit au fait que la cuisine, c'est un vrai moyen de convivialité, c'est un vrai moyen de rassembler les gens. On croit aussi que le prix libre, c'est un moyen que tout le monde se sente à l'aise de pousser la porte de la structure. Voilà. Et on pense aussi que le fait de faire les uns avec les autres, ça permet de casser des barrières petit à petit. Et le fait de faire ensemble, petit à petit, ça crée du lien et ça crée un tout.
La dynamique du faire, c'est quelque chose qu'un certain nombre de structures mettent en avant. Il y a l'école Être aussi, pareil, il s'appelle l'école du faire. On va pas parler, on va faire ensemble et c'est en faisant qu'on créera et notamment qu'on va créer les liens. Voilà, je vous laisse rebondir là-dessus.
Oui, complètement.
Ce qui est bien, c'est qu'on a tous besoin de manger, donc on a tous besoin de faire à manger aussi.
Ouais, ça a l'avantage d'être quelque chose d'universel, le fait de manger, mais aussi de partager un repas convivial. Comme je disais tout à l'heure, le fait de se retrouver autour d'une table, de partager un bon repas, la réputation des Français qui est de... Quand on mange, on parle de bouffe, mais pas de ce qu'on est en train de manger. Donc, ouais, c'est sûr que la nourriture a quelque chose de très fédérateur et qui peut être générateur de convivialité entre les publics. Et donc, on a bien compris que votre enjeu, c'était donc de créer du lien social entre les personnes, pour les personnes notamment qui souffrent d'isolement. Il y a aussi un grand enjeu qui est celui de la précarité alimentaire. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir ce concept de précarité alimentaire ?
Oui, alors la précarité alimentaire, c'est une personne en fait qui ne dispose pas forcément d'un accès à une alimentation qui lui est suffisante, qui lui est de qualité et puis qui respecte ses préférences alimentaires et ses besoins en fait nutritionnels. Et ça peut venir de beaucoup de situations. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on est en précarité alimentaire.
D'accord. Et par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve en précarité alimentaire ? J'imagine que l'inflation y est pour quelque chose, celle qu'on a connue ces dernières années.
Typiquement, les moyens d'une personne influencent sur sa nutrition. Donc ça influence sur ce qu'on achète en termes de qualité. Ouais. Et ça influence aussi sur le temps qu'on donne potentiellement à ses repas. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un très bon exemple.
Oui, puis il faut aussi se penser qu'il y a une question d'accessibilité. Si on est dans un endroit où autour de nous, dans les 15-30 minutes à pied, il n'y a pas de l'offre qui nous correspond, il n'y a pas d'offre alimentaire qui est correcte pour nous, accessible avec notre pouvoir d'achat, c'est aussi un problème. Donc il y a aussi des questions d'accessibilité et c'est aussi en ça que l'idée d'avoir une cantine de quartier, on n'a pas vocation à répondre aux besoins de toute la ville, mais si on fait un petit rond à 15-20 minutes à pied autour de la petite cantine, on peut se dire déjà qu'on peut toucher ces publics-là.
Est-ce que dans la question de l'accessibilité, on compte aussi la question du temps ? Parce que cette semaine, on a fait un atelier justement de la Forêt des Possibles avec des jeunes étudiants qui étaient au CROUS et qui faisaient souvent remonter la question de dire « moi, j'aimerais pouvoir manger mieux, mais je n'ai pas le temps. » Et surtout, je peux avoir par exemple qu'une seule plaque. Et donc si jamais je veux faire un dalle, il faut que je fasse cuire plusieurs choses en même temps, sachant que je suis hyper pressé à côté pour faire d'autres activités pressantes, et donc de ne pas avoir le temps suffisant pour se faire à manger un plat qui soit équilibré et sain pour nous.
Ah oui, complètement, que ce soit les étudiants, que ce soit des personnes qui travaillent énormément, qui font beaucoup de déplacements pour aller jusqu'à leur lieu de travail, il y a énormément de raisons qui font qu'on n'a pas le temps de faire à manger. Je pense que l'idée de venir cuisiner aux petites cantines permettra peut-être à des personnes aussi de se rendre compte que peut-être que d'avoir des petites pratiques ou des petits tips pour aller plus vite sur certaines recettes ou faire des choses plutôt simples, accessibles. On aimerait bien que ce soit aussi un moyen d'avoir des petits déclics dans les routines de chacun. Peut-être, on ne sait pas exactement jusqu'où ça ira, mais c'est l'idée.
Est-ce qu'on retrouvera un carnet de recettes sur votre site pour pouvoir embarquer vos bonnes recettes et les reproduire à la maison ? Ça pourrait être un contenu assez pertinent pour les personnes qui ont envie de reproduire, ou au moins pour avoir des inspirations, parce que, comme tu disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir de commerce disponible dans son entourage, le fait de ne pas avoir de commerce où on peut se procurer des bons produits peut limiter aussi l'élaboration des recettes, en fait.
Mmh, complètement. Mmh. Des bons produits ou des produits au tarif auquel nous, on peut prétendre.
Ouais.
Carnet de recettes, bah écoutez, on note. Hein.
Vous voyez si c'est une idée qui intéresse surtout votre communauté.
Complètement.
Mm-hmm. Non, mais c'est vrai que sur Marseille, moi par exemple, j'ai la chance d'habiter en ville où j'ai notamment un réseau d'épiceries paysannes qui appartient notamment à la filière paysanne. Donc, on a aussi le marché de la Plaine, le marché du Courju. On a quand même, j'ai l'impression qu'on est quand même bien lotis à Marseille en termes d'offres de fruits et légumes. Après, qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on va plutôt dans les quartiers excentrés ? Est-ce qu'il y a toujours aussi cette même offre de marché ? Vous avez une idée ?
Si on s'éloigne du centre-ville, il y en a moins, effectivement. Après, ouais. Il faut se dire aussi que ce qu'il y a comme offre dans le centre-ville n'est pas forcément accessible à tous. En plein centre-ville de Marseille, on a des taux de pauvreté qui explosent. Le quartier de la Belle de Mai est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Donc forcément, les épiceries paysannes qui sont aux alentours ne concernent pas ces les populations qui sont en dessous du seuil de pauvreté-là. Donc il faut trouver un moyen de proposer une offre qui correspond à la demande, même en centre-ville.
Il y a plusieurs choses à dire aussi là-dessus. Déjà, il y a par exemple des structures comme la Cité de l'Agriculture qui cherchent à faire des propositions de paniers qui sont à des prix tout à fait abordables, hors des aspects hyper centraux de la ville. Il y a des structures aussi comme le CHRS-ARS qui propose des paniers à 1 euro de fruits et légumes bio pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont en situation d'être sans abri. Et ce qu'ils ont remarqué qui est hyper intéressant, c'est que malgré le fait qu'on propose à 1 euro des paniers bio, les personnes qu'ils accompagnaient parfois ne s'en saisissaient pas. Tu vois. Et avec tout ce que ça peut impliquer aussi d'une certaine projection de ce que ça peut être que le bio, et de se dire en fait c'est pas pour moi, c'est trop loin, c'est un truc de bobo, etc. Et moi j'aimerais bien qu'on puisse un peu discuter le fait que quand on regarde la santé, en se disant quand je mange bio, je mange une alimentation qui est plus saine et où finalement même en termes d'investissement, ça va me coûter peut-être moins de frais de santé plus tard pour ne pas avoir eu à manger des choses qui peuvent être des produits très transformés ou qui peuvent être des produits avec beaucoup de produits chimiques qui peuvent me provoquer des soucis de santé un peu plus tard. Et donc c'est un investissement qui peut être de quelques centimes ou quelques euros de plus par panier, mais pour finalement à long terme être quelque chose de, on va dire, de rentable, si jamais on doit compter comme ça, y compris en regardant dans le porte-monnaie.
Oui, moi je vois deux choses là dans ce que tu dis. Premièrement, il y a pas fort. Enfin, même si on peut avoir accès à des paniers, etc., à moindre coût, avec des aides qui ont été mises en place pour ça, les produits bruts, ça parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui mangent de l'ultra transformé en permanence, justement pour des questions d'accès, de temps, d'équipement, etc. Donc il y a tout ça à déconstruire. Donc et après, il y a aussi peut-être que le bio, avant d'aborder le sujet du bio, moi je trouve que c'est plus important d'aborder le sujet du produit brut qu'on transforme nous-mêmes et qui nous coûtera moins cher que d'acheter des produits transformés qui nous nourriront moins bien. Je pense que quand j'évoque la lutte contre la précarité alimentaire, je pense que la première bataille, si on peut appeler ça des batailles, elle est vraiment là-dessus, quoi. Se nourrir assez et de savoir transformer des produits nous-mêmes pour que ça nous coûte moins cher et que nos paniers au supermarché ou au marché nous coûtent moins cher.
Je rebondirais bien aussi sur ce que tu disais sur le fait que c'est plus rentable finalement à long terme de se nourrir bien parce qu'on a moins de problèmes de santé. Ça c'est vrai, mais quand on est dans une situation de précarité, en fait on a vraiment une vision très très court terme et nous ce qu'on cherche finalement c'est à payer le moins cher tout simplement ou à avoir la première chose qui nous vient pour pouvoir s'alimenter.
Ouais, et c'est là où je trouve qu'il y a une marge de manœuvre pour avoir fait quand même 2 ans d'éducation populaire continue dans les quartiers, c'est de voir que il y a quand même des espaces sur lesquels c'est tout à fait possible. Sur par exemple l'accès à la viande, on peut acheter une viande qui peut ne pas être de super qualité, qui va quand même coûter cher. Si on décide de ne plus acheter de viande pour avoir le même prix à l'arrivée, mais pour des fruits et légumes qui vont être de meilleure qualité, les qualités nutritives peuvent être quasiment similaires, tout en étant en meilleure santé, sans avoir à ce que ça explose le prix du panier final, mais où il y a un énorme travail à faire sur en fait la façon de se représenter ce qu'on décide de manger, de pas manger, et selon les cultures, le rapport à la viande. Je parle même par exemple de mon frère, c'est hyper important de manger de la viande, il faut être stock, etc. Il y a vraiment tout un imaginaire à questionner sur comment est-ce qu'on mange au quotidien.
Ouais, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, je sais pas à quel point notre projet va révolutionner le monde à ce niveau-là. C'est une offre, c'est une proposition. Et les gens à qui ça parle viendront s'en saisir. Il y a peut-être des gens qui viendront pas pour la nourriture au départ, mais pour le lien social, pour la rencontre, pour le bon moment, et qui repartiront avec des petites idées au niveau de leur alimentation. Ou à l'inverse, des gens qui adorent faire à manger, puis qui se diront, oh, tiens, j'ai rencontré du monde aujourd'hui, ça m'a fait du bien. On sait pas. Et on verra ce que ça crée.
J'avais 2 petites questions vraiment pratico-pratiques sur les petites cantines que vous allez ouvrir. La première, c'est est-ce que vous allez ouvrir uniquement le midi ou aussi le soir? Et la deuxième, c'est pour rebondir à ce que tu étais en train de dire, est-ce que ça va être végétarien, vegan, flexitarien? Gwen?
Alors, ça peut être ouvert le midi et ou le soir. Ça va beaucoup dépendre, okay, en fait, finalement, du local qu'on va trouver et du niveau d'investissement aussi des adhérents et des bénévoles. Mm-hmm. Donc ça, on n'est pas capable de répondre aujourd'hui à cette question. Peut-être qu'on ne démarrera qu'avec des déjeuners et qu'on continuera ensuite aussi avec des dîners. Et pour ce qui est des repas, on n'a pas vocation à, en tout cas, afficher qu'on est végétarien ou vegan. Le but, c'est que tout le monde ait envie de venir et que tout le monde s'y retrouve après qu'on ait des propositions, en tout cas, qui puissent convenir à différents types de populations, différentes envies de nourriture.
Le principal, c'est que ce soit bon.
Exactement.
Ce qui sera communiqué. Ok, alors petite question que nous aimons bien poser ici à la Forêt des Possibles, c'est de travailler sur les imaginaires. Bon dans le temps, nous sommes en 2030. Marseille a réussi sa transition écologique et solidaire. À quoi ressemble cette ville de Marseille, que ce soit sur le plan de l'alimentation durable, que ce soit sur le plan du lien social, que ce soit sur le plan du prix libre appliqué, voilà. Et même au-delà, en fait. À quoi ressemblerait Marseille en 2030 qui a réussi sa transition ?
Une idée, Gwen ?
Moi, j'aimerais bien avoir l'idée d'une ville où, en fait, il y a vachement plus de lieux où rassembler les personnes et que ça puisse justement être autour de sujets de l'alimentation, donc typiquement des jardins partagés dans lesquels on pourrait cultiver ensemble et puis dans lesquels il y aurait des espaces, tout simplement, où on peut se poser, parler, discuter. Finalement, ce serait plus d'entraide, peut-être plus de temps, en fait, accordé tout simplement à des moments passés ensemble, au détriment peut-être de moins de moments de travail, je ne sais pas, mais qui finalement nous apporterait plus de bonheur et qui nous montrerait aussi qu'on n'a pas forcément besoin de tout ce qui est matériel peut-être aujourd'hui et qu'on peut, on peut très bien être heureux avec son entourage, son quartier, ses voisins, etc.
Alors j'en profite pour citer cette étude de Harvard qui est la plus longue étude jamais menée dans l'histoire de l'humanité, qui prouve que ce qui fait la qualité, le bonheur chez les gens, c'est la qualité des relations humaines entretenues tout au long de sa vie. Voilà. Ce n'est pas le niveau d'argent ou le niveau de confort, vraiment le bonheur est corrélé avec les relations humaines. Et donc je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu étais en train de dire et cette vision que tu as de Marseille en 2030 avec cette idée d'endroit qui pourrait permettre les échanges entre les uns les autres et permettre d'accéder au bonheur.
Tout à fait, c'est une belle citation.
Magnifique.
Et toi Julia, à quoi ressemble 2030, Marseille en 2030 ?
Marseille en 2030, pour moi, c'est une ville qui peut-être essaye de plus travailler sur son autonomie alimentaire. Bon, on va peut-être avoir des soucis avec l'eau, donc on verra comment on peut faire ça, mais ce serait le rêve, on va dire, une petite utopie, et que cette alimentation soit accessible à tous, qu'on arrive à dépasser juste le jargon et qu'on arrive opérationnellement à le faire, et que que chacun trouve sa place, enfin qu'il y ait de la place pour tout le monde peut-être, et que ce soit Oui, qu'il y ait de la place pour tout le monde.
Et ça me fait une bonne transition pour dire que c'est justement le projet de la Forêt des Possibles d'amener chacun et chacune à trouver sa juste place dans une société en transition. Mais je voudrais que tu creuses un petit peu. Qu'est-ce que tu entends exactement par trouver sa place ? Est-ce que c'est d'avoir un logement dans lequel on se situe dans l'espace ? Est-ce que c'est d'être plutôt aligné soi-même avec ses valeurs et ses envies ?
Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler d'un livre qui va faire un petit clin d'œil d'une femme philosophe qui s'appelle Claire Marin. Donc, les deux animateurs de cette émission.
C'est vous qui avez écrit animateur.
Non, ce n'est pas nous. Mais donc, Claire Marin qui a écrit un livre qui s'appelle « Être à sa place » et qui questionne vraiment ce que c'est qu'être à sa place et avec toute la polysémie de ce que ça peut impliquer. Être à sa place dans sa famille, être à sa place dans son travail, être à sa place dans un lieu particulier, être à sa place psychologiquement dans le rapport avec les autres, dans le rapport à l'amour, vivre dans leur rapport à la société dans laquelle on est, et où elle questionne le fait que c'est quelque chose qui est extrêmement dense, que ça brasse énormément de questions, sans être tout à fait certain, certaine en l'occurrence pour elle, que ça existe pleinement, mais que c'est plutôt une quête, et que même quand on l'a vraiment trouvé, bien, peut-être qu'après il y a une sorte de confort qui nous invite à de nouveau prendre le large. Bref, je vous invite à lire ce livre, il est très chouette. Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher, sur ta question Claire, de faire un petit rebond et d'inviter à cette petite lecture.
Ça a l'air intéressant tout ça.
Inspirant.
Je crois que j'évoquais surtout de la place pour tout le monde, dans le sens où c'est une ville hyper, avec un très fort multiculturalisme, Marseille, et où peut-être des populations peuvent en chasser d'autres, où voilà, il y a quand même forte évolution de la sociologie de la ville, et je trouve que ça serait intéressant qu'une population n'en chasse pas une autre, justement, et que tout le monde puisse être dans Marseille et vivre Marseille comme elle l'a toujours vécu, comme elle veut la vivre.
Qu'on puisse tous cohabiter dans cette belle ville, dans cette belle cité phocéenne. Et tu vois, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que des fruits et légumes ne sont pas forcément accessibles quand on est dans le centre-ville de Marseille, on a quand même le quartier de Noailles, où il y a ce marché tous les jours et qui reste un quartier extrêmement populaire en plein centre-ville, à deux pas du Vieux-Port. Moi, à chaque fois que je traverse ce quartier, je suis impressionnée de voir que cet endroit résiste à la gentrification. Bon, on sait que c'est notamment à cause de raisons de mal logement, mais voilà, c'est vraiment un quartier très vivant dans notre belle ville de Marseille.
Historiquement, c'est aussi le quartier par lequel l'alimentation venait. Enfin, on venait à Marseille, à Belzunce pour aller chercher les tissus et à Noailles pour aller chercher les denrées alimentaires au moment où le port était vraiment le port colonial qui était la porte d'entrée de finalement tous les comptoirs au bord de la Méditerranée. Donc c'est vrai que le quartier de Noailles a vraiment gardé son identité à ce niveau-là.
Et tous les bars du cours Julien étaient les anciens hangars du mine, enfin du marché de gros de la ville. Bon, ce sont des bars.
Et voilà, on apprend toujours plein de choses.
Eh bien, je vois que l'émission va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour conclure ?
Ben, si le projet vous plaît, si vous avez envie de nous aider, si vous connaissez des gens qui veulent nous aider, si vous avez, oui, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche toujours du renfort et on aura besoin de beaucoup d'énergie pour que ce projet prenne vie finalement.
Et voit le jour, nous avons hâte.
Et puis nous avons aussi ouvert officiellement aujourd'hui notre compte Instagram, donc vous pouvez nous suivre sur...
Les petites cantines tirées du bas Marseille.
On relayera sur les comptes de la forêt des possibles. Merci beaucoup Gwen, merci beaucoup Julia,
merci
Marin.
Merci Claire, merci Marin.
Merci pour votre invitation.
Merci à vous, bonne soirée.
Au revoir.
Et la semaine prochaine, c'est...
C'est toi qui les invités.
La semaine prochaine, on va parler de génération, de liens intergénérationnels, et on en reparle. Du coup,
on en reparle la semaine prochaine, ouais.